VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre en ce mardi 12 novembre 2019. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Pour vous accompagner, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
Au Mali, l'armée dit avoir engagé une offensive de grande envergure contre les bases djihadistes dans le centre du pays.
Opération militaire au Burkina également, trois assaillants abattus lors d'une riposte à une attaque qualifiée de terroriste dans l'est du pays.
Dans la partie magazine, une radio engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'émet plus par peur de représailles.
Les journalistes maintenant sont abandonnés à leurs professeurs. Nous souviendrons avec nous que notre confrère Fatih Mahamba a été lâchement abattu l'année du samedi 3 novembre dernier.
Ailleurs dans le monde, la Bolivie dans l'incertitude, l'armée dit vouloir prêter main forte à la police pour ramener l'ordre, alors que l'ex-chef de l'État, Evo Morales, obtient l'asile au Mexique après sa démission forcée.
Et comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec la Minute Éco et les sports, c'est à venir dans environ 9 minutes.
Au Mali, l'armée dit mener actuellement une vaste offensive dans le centre du pays. Plusieurs djihadistes ont été tués dans l'opération menée avec le soutien de l'armée de l'air malienne. Elle intervient après deux attaques meurtrières récentes des djihadistes dans lesquelles une centaine de soldats maliens ont trouvé la mort en un mois. De Bamako, le point avec Kassim Traoré.
Tous les chefs militaires des forces armées maliennes FAMA sont actuellement sur le théâtre des opérations. Les militaires maliens ont reconsidéré leur posture opérationnelle sur le terrain. Yaya Sangaré, ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.
Et aujourd'hui, nos forces armées maintenant font des mouvements sur le terrain, des opérations terrestres appuyées par l'armée de l'air du Mali et qui permettent maintenant de neutraliser beaucoup de terroristes autour en détruisant les bases logistiques. Ces terroristes, ce qui nous a permis vraiment de non seulement de les métalliser, mais de récupérer aujourd'hui beaucoup de pièces à conduction.
Avec les replis des FAMA sur des zones sécurisées, les populations se sentent abandonnées par leur armée.
Mais ce qui a été donné comme instruction, c'est de pouvoir regrouper les soldats en un lieu beaucoup plus sécurisé et de permettre aux militaires d'intervenir. Mais dans leur intervention, ils ont l'œil sur les populations qui aujourd'hui craignent le fait que l'armée s'est un peu éloignée d'elles.
Le gouvernement du Mali dans un communiqué a invité l'ensemble du peuple malien à accompagner et à encourager les femmes dans leur combat contre les forces obscurantistes qui mettent en mal le vivre ensemble. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans l'est du Burkina Faso, trois assaillants ont été abattus hier à Futuri dans ce que l'armée qualifie de vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. Bagessikoura.
L'armée a expliqué l'incident dans un communiqué disant, et je cite, « Le 11 novembre, à l'aube, aux environs de 5 heures du matin, le détachement militaire de Futuri, qui se trouve dans la province de la Komandiari, a été la cible d'une attaque terroriste. L'état-major des armées souligne que la vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins trois assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions. Deux soldats du détachement ont été légèrement blessés, toujours selon le texte. Réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minungu, a félicité les unités engagées et particulièrement le détachement de Futuri pour leur, je cite, détermination. Il a aussi exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, selon lui, mèneront indubitablement à la victoire.
La procureure de la Cour pénale internationale met en garde contre l'escalade de la violence en Guinée. Fatou Bensouda appelle le gouvernement et l'opposition à renouer le dialogue après des manifestations meurtrières dans ce pays. L'opposition accuse le président Alpha Condé de vouloir modifier la constitution afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Jusqu'à maintenant, le chef de l'État n'a rien dit à ce propos. Son bureau maintient qu'il s'exprimera le moment venu.
L'ONU appelle les militaires en Guinée-Bissau à rester à l'écart de la crise politique dans le pays. Au terme d'une réunion à huis clos hier, le Conseil de sécurité a réclamé à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre, comme prévu. Une déclaration à ce sujet a été approuvée à l'unanimité. Les membres du Conseil ont réaffirmé la légitimité du gouvernement du Premier ministre Aristide Gomes à organiser le scrutin présidentiel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Bolivie, les forces armées sollicitées par la police affirment qu'elles vont mener des opérations conjointes avec elles pour contenir les violences déclenchées dans plusieurs régions du pays par les partisans de l'ancien président Evo Morales, contraint à la démission dimanche dernier. Le point avec Driss Fall.
Les successeurs prévus par la Constitution en cas de départ du président ont en effet tous démissionné. Le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et le vice-président du Sénat ont jeté l'éponge. La deuxième vice-présidente du Sénat, l'opposante Jeanine Agnès, a revendiqué le droit de devenir chef de l'État par intérim, mais la nomination du remplaçant par intérim revient au Parlement où les partisans d'Evo Morales sont toujours majoritaires. Les députés devaient se réunir hier, mais nombre d'entre eux ont eu du mal à rejoindre la passe à cause des problèmes de transport. Evo Morales a annoncé sa démission dimanche. Cet ancien berger de Lama avait gravi les échelons syndicaux jusqu'à devenir, il y a 13 ans, le premier chef d'État indigène de la Bolivie. Il est aussi l'un des derniers représentants de la vague rose qui avait déferlé sur l'Amérique latine. Depuis, la majorité de ces pays ont rebasculé à droite, voire l'extrême droite.
Et Evo Morales était à bord d'un avion militaire mexicain hier soir pour rejoindre le Mexique où il a obtenu l'asile. À Washington, le président américain Donald Trump s'est félicité de la tournure des événements en Bolivie, lesquels, dit-il, envoient un signal fort au régime illégitime du Venezuela et du Nicaragua.
Des dizaines de jeunes migrants qui ont grandi sans papiers sur le sol américain sont arrivés devant la Cour suprême ici à Washington à l'issue d'une marche de 370 kilomètres. Le point avec Michel Joseph.
La Cour suprême des États-Unis doit examiner ce mardi le programme dit DACA qui a été adopté en 2012 par le président Barack Obama et qui interdit d'expulser ces jeunes et leur a donné un numéro de sécurité sociale qui leur permet d'étudier, de travailler ou de conduire aux États-Unis. Son successeur, le président Donald Trump, a décidé en 2017 de mettre un terme à ce programme dit DACA. Des tribunaux ont provisoirement bloqué sa décision, accordant un répit à ceux qu'on surnomme les Dreamers et dont le sort est maintenant aux mains des 9 juges de la Cour suprême. Pour plaider leur cause, ces jeunes sont partis à pied de New York le 26 octobre. Ils sont arrivés dimanche devant la haute juridiction des États-Unis. Leur cortège a grossi à mesure qu'ils s'approchaient de la capitale fédérale. Certains Américains ont brandi des panneaux sur lesquels on peut lire « Nous sommes tous des Dreamers » en solidarité avec ces quelques 700 000 jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants.
Les États-Unis ont exprimé hier leur grave préoccupation face à la violence croissante à Hong Kong et ont appelé à la retenue les forces de l'ordre et les protestataires. Le porte-parole du département d'État, Morgan Ortagus, écrit dans un communiqué que Washington observe la situation à Hong Kong.
L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme avoir détecté des particules d'uranium naturel dans un lieu non déclaré en Iran, dont les activités nucléaires inquiètent extrêmement l'Union européenne. L'AIEA ne nomme pas le site. Depuis mai dernier, Téhéran se désengage progressivement de l'accord sur son programme nucléaire, signé à Vienne avec les Européens, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui autorise les inspections les plus poussées jamais accordées à l'AIEA. Le président américain Donald Trump a retiré son pays de l'accord en mai de l'année dernière, réimposant des sanctions sur l'économie iranienne qui l'ont plongé dans une grave récession. En réduisant graduellement ses engagements, Téhéran espère faire pression sur les autres États parties pour qu'ils l'aident à contourner ces sanctions. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Il est l'heure maintenant de la Minute Éco avec Nanik Talani.
Le Kenya adopte une loi sur la protection des données personnelles obtenues par les entreprises et les entités gouvernementales. La législation prévoit des restrictions sur la manière dont ces données doivent être traitées, stockées et partagées. Des sociétés telles que Kenya Airways et des hôtels devront s'y conformer, de même que des prêteurs par téléphone tels que Safaricom. Les contrevenants risquent une amende de près de 29 000 dollars ou 2 ans de prison. La South African Airways est très endettée. Elle veut lancer un plan de restructuration qui pourrait aboutir au licenciement d'un millier de salariés. La PDG de la compagnie aérienne nationale sud-africaine estime que 944 sur 5150 employés pourraient être affectés. South African Airways traverse depuis des années de sérieuses turbulences financières et ne doit sa survie qu'aux aides budgétaires d'urgence répétées que lui accorde l'État, son principal actionnaire. Pour terminer, les États pétroliers africains proposent de nouvelles offres pour attirer des investisseurs difficiles suite à la baisse de la production de pétrole en Angola et au Cameroun et aux appels d'offres décevants au Ghana. Ces trois pays ainsi que le Gabon insistent sur les modifications aux conditions légales et fiscales pour stimuler la production pétrolière. Ces pays africains craignent de ne plus pouvoir bien écouler leur pétrole à cause des énergies renouvelables et des efforts pour réduire la consommation de combustibles fossiles.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le Mali éliminé de la CAN a des moins de 23 ans.
Oui, les Aigles Espoirs se sont inclinés 0-1 face au Cameroun. C'est leur deuxième défaite dans la compétition, synonyme d'élimination. Le Mali reste bloqué à 0 points, tandis que les hommes de Rigobert sont contre 4 unités. Le Cameroun occupe présentement la deuxième place du groupe A, derrière l'Égypte, pays hôte, qui a enregistré sa deuxième victoire en battant le Ghana 3-2. Ce soir, la Côte d'Ivoire, leader du groupe B, fera face à l'Afrique du Sud et la Zambie jouera le Nigeria.
L'Algérie reprend Haris Belkebla pour les éliminatoires de la CAN 2021.
Le milieu de terrain de Brest exclu pour raisons disciplinaires a été rappelé par le sélectionneur Jamel Belmadi. Haris Belkebla a raté la CAN 2019 remportée par les siens après avoir exhibé son postérieur sur Internet alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne. En revanche, Yassine Brahimi, qui portait le brassard de capitaine lors du dernier match des Fennec, n'a pas été convoqué. On note aussi le retour de l'attaquant de Montpellier, Indy Delors, absent en octobre à cause d'une blessure. Les Fennec affronteront la Zambie ce jeudi en Algérie, puis le Botswana le 18 novembre à Gaborone pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.
L'ancien président de la Fédération tanzanienne de football a été suspendu.
Jamal Emil Mainzi a été suspendu 10 ans de toute activité liée au football pour détournement de fonds, d'après la FIFA. L'ancien président de la Fédération tanzanienne, également ancien membre d'une commission de la FIFA, a aussi été condamné par la commission de discipline de l'instance mondiale à une amende de 455 700 €. Jamal Emil Mainzi a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds de la FIFA, de la CAF et de sa propre fédération entre 2013 et 2017. Malinzi est aussi suspendu pour avoir falsifié une résolution du comité exécutif de sa fédération.
Et la Supercoupe espagnole s'installe en Arabie Saoudite.
La Supercoupe d'Espagne se tiendra en Arabie Saoudite pour les trois prochaines saisons 2020-2021 et 2022. Valence CF, Real Madrid et FC Barcelone Atlético Madrid. Ce sont là les affiches des demi-finales après le tirage au sort effectué hier. La compétition se disputera pour la première fois selon le format d'un Final Four. Les demi-finales auront lieu les 8 et 9 janvier prochains. Les deux clubs vainqueurs s'affronteront en finale le dimanche 12 janvier. Auparavant, la Supercoupe opposait simplement le vainqueur de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi. La Fédération espagnole a assuré que les hommes et les femmes pourront accéder à la compétition en toute égalité au stade du Roi Abdallah de Jeddah.
Merci bien Yacouba. Et maintenant en NBA, le championnat de basket nord-américain, les Minnesota Timberwolves ont battu les Detroit Pistons 120-114. D'autres résultats, Boston Celtics 116, Dallas Mavericks 106, Houston Rockets 122, New Orleans Pelicans 116. Utah Jazz 122, Golden State Warriors 108, et LA Clippers 98 contre Toronto Raptors 88. Toujours à propos de la NBA, sachez que l'ailier des Boston Celtics, Gordon Hayward, a été opéré hier d'une fracture à la main gauche et sera absent des parquets NBA pendant 6 semaines. Quant à l'ailier des Milwaukee Bucks, Chris Middleton, il est lui blessé à la cuisse gauche et sera absent 3 à 4 semaines d'après plusieurs médias. Voilà pour le résumé des matchs NBA la nuit dernière et des nouvelles de ce championnat.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous sur VOA Afrique et mes temps de la capitale américaine. Au Burkina Faso, c'est toujours la tristesse et la colère chez les familles des victimes de l'attaque du convoi de la mine d'or de Semafo sur l'axe Bongou-Ougarou mercredi dernier. Durant tout le week-end écoulé, les parents des 39 personnes tuées ont récupéré les corps de ces victimes. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
À la morgue de l'hôpital de Bobo-Dogo, Ouagadougou, l'un des grands centres de santé du pays. Ici, des centaines de personnes, la plupart membres des familles des personnes tuées mercredi à Bongo. À tour de rôle, chaque famille passe, rentre dans un bureau, procède au remplissage de formulaires et récupère son corps. Le silence est pesant.
C'est la désolation. C'est triste de perdre un proche. On n'y peut rien.
Oumarou Tankwano est venu enlever le corps de son cousin mort dans l'attaque.
Je sens de la colère et de l'impuissance d'être incapable ou bien de voir mon pays incapable de se protéger. C'est triste.
Ismaël Ouedraogo est aussi proche de victimes.
On n'est attristé par ces événements qui nous arrivent. On aimerait que tout ça, ça cesse. Nos enfants, mères, jeunes, on voulait que tout ça, ça s'arrête. Voilà, le moment qu'on est là, on pleure. Nos enfants, nos frères, tout le monde.
Ici à la morgue, on tente de savoir la cause de ces attaques au Burkina. Oumarou Tankwano.
Le gouvernement fait son mieux. On a eu beaucoup d'opérations, notamment à l'Est, on a eu l'opération au Taponou. Mais on a senti vraiment une baisse de la garde de la part du gouvernement. Parce que quand il y a eu un peu d'accalmie, ils ont baissé la garde. Les terroristes ont profité.
Ismaël Ouedraogo, membre d'une famille de victimes.
Le gouvernement fait des efforts, mais qu'est-ce que vous voulez? Si ça dépasse le gouvernement, qu'est-ce qu'on va dire? La solution est que le peuple burkinabé se mette ensemble pour vraiment combattre ce phénomène-là. Ces attaques-là, on ne connaissait pas ça, il y a chose au Burkina ici. Bon, si c'est des gens qui sont derrière aussi, bon, qu'ils arrêtent. Que ce soit des Européens ou Massins, qu'ils arrêtent. Nous, en tout cas, on ne va pas nous laisser faire.
Des familles qui, pratiquement seules ce week-end à la morgue, retiraient les corps de leurs parents. Le président Kabore a annoncé le lendemain de l'attaque une mobilisation générale contre le terrorisme. Des jeunes volontaires devraient être recrutés pour défendre la patrie, a-t-il déclaré. Une opération dont les contours restent encore à élucider. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les réactions sont mitigées après l'annonce, avec 18 mois de retard, de la date des élections locales et législatives. L'opposition estime que l'insécurité dans plusieurs régions rendra ces élections impossibles. Pour sa part, le gouvernement affirme que l'armée a restauré la paix dans les zones de crise. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
L'armée camerounaise a annoncé lundi qu'elle était impliquée dans des affrontements sanglants avec des séparatistes à Bamenda et Missadje dans le nord-ouest anglophone ainsi que dans les villes de Koumba, Manfé et Mouyuka dans le sud-ouest. Les médias locaux rapportent que 9 corps ont été découverts par des civils. La veille, un décret du président Paul Biya a fixé au 9 février la date des élections locales et législatives. La sénatrice Emilia Nkeze du Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, estime que cette décision était attendue après la tenue du dialogue national le mois dernier.
Le monde a entendu que nous avons tenu un dialogue et tout le monde attend de voir la mise en œuvre de ces recommandations afin que notre pays, dont les fondements ont été secoués, puisse retrouver un peu de calme et de paix.
Le SDF et d'autres partis tiennent des concertations pour décider s'ils vont, oui ou non, participer à ce scrutin. Les élections étaient prévues en septembre 2018, mais le président Biya les avait reportées, affirmant qu'il était difficile de tenir les législatives et municipales parallèlement à la présidentielle en octobre de la même année. Pour les critiques, Paul Biya était en réalité préoccupé de l'insécurité dans les régions anglophones et dans l'extrême nord du pays, où les troupes combattent Boko Haram depuis 2014. L'analyste Vitalis Njumé du Centre camerounais pour la paix et le développement pense que les séparatistes doivent déposer les armes et permettre aux habitants des zones anglophones de choisir leurs députés.
Ceux qui se battent limitent les chances de la paix. Ils doivent réfléchir pour que l'élite, les politiciens, puissent retourner dans leurs circonscriptions et voir comment les campagnes et les élections peuvent se dérouler dans la paix.
Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji assure pour sa part que le gouvernement a demandé à l'armée de sécuriser les régions troublées pour les élections.
Nous avons des problèmes de sécurité, mais tout est mis en place. Les forces de défense et de sécurité reconnues pour leur professionnalisme soutiendront les administrations dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous avons pris des mesures de sécurité strictes que nous ne pouvons pas révéler.
Le conflit avec Boko Haram a déplacé des centaines de milliers de personnes près de la frontière avec le Nigeria et la crise dans les régions anglophones a fait près de 3 000 morts, un demi-million déplacés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En République centrafricaine, le nombre de victimes des inondations dues à la montée du fleuve Oubangui et à la rivière Mpoko continue d'augmenter. La Croix-Rouge parle d'au moins 50 000 sinistrés dans tout le pays. Dans la capitale, la mobilisation s'intensifie en faveur des personnes se retrouvant sans abri. À Bangui, pour VOA Afrique, le reportage de Freeman Sipila.
Cela fait plus de 3 semaines déjà que le fleuve Oubangui et la rivière Poko sont sortis de leur lit, envahissant plusieurs régions du pays et de nombreux quartiers de la capitale. En dehors des deux sites aménagés par le gouvernement pour accueillir les sinistrés à Bangui et dans la commune de Bimbo, plusieurs autres camps de refuge sont créés dans la capitale et dans certaines régions. La Croix-Rouge nationale parle déjà de près de 50 000 victimes. Antoine Baobogo, son président.
Aujourd'hui, nous avons près de 50 000 personnes qui sont affectées par les inondations et il faut compter 7 personnes qui ont disparu avec 25 blessés. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des désœuvrés, nous avons des personnes à la retraite qui ont passé toute leur vie à construire. Et aujourd'hui, la maison n'existe plus et il faudrait les soutenir.
Face à cette catastrophe naturelle, la mobilisation devient de plus en plus intense en faveur des sinistrés. Le gouvernement, les partis politiques et les différentes associations et personnalités volent au secours des victimes. Le groupement du patronat composé de plusieurs entreprises a secouru samedi 9 novembre les sinistrés installés sur les principaux sites. César Potolo, secrétaire général de cette organisation dénommée JICA.
Nous avons fait une collecte pour un montant de 15 millions qui nous a permis donc d'acheter toutes ces denrées de première nécessité. Pour nous, il fallait pallier à l'urgence, c'est-à-dire permettre aux gens de dormir quelque part, mettre en place une chaîne de solidarité pour venir en aide.
Craignant des conséquences néfastes sur la santé, le ministère de la Santé publique met en place un dispositif pour barrer la route à des maladies dangereuses comme le choléra. Docteur Maurice Bawa est coordonnateur du CUSP, Centre d'opération d'urgence en santé publique.
Les victimes sont vraiment exposées au risque de choléra. Vu ce risque élevé, le secteur santé met en place automatiquement la surveillance épidémiologique des cas. C'est vrai que le cas n'est pas encore détecté. Pour ne pas échapper à un seul cas, il y a des maladies courantes qu'il ne faut pas occulter, notamment le paludisme, maladie diarrhéique, les infections respiratoires aiguës. Et donc, il faut déployer des médicaments qui peuvent traiter ces maladies.
La situation est d'autant plus grave à Bangui qu'en province, notamment dans l'Est, le Sud et une partie du centre du pays. Le gouvernement confronté à de sérieuses difficultés logistiques promet des efforts pour les sinistrés de ces zones. La ministre de l'Action humanitaire, Virginie Baïkoua.
C'est toute la République qui est concernée. Là où nous avons des
des données fiables. Par exemple, à Bambari, il y a eu déjà notre partenaire HR qui a procédé à une remise de kits. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une descente dans les provinces sur les zones accessibles pour pouvoir aider nos compatriotes sinistrés dans l'arrière-pays.
En dépit des mobilisations en cours à Bangui et parmi la diaspora centrafricaine, le nombre des victimes de ces inondations continue de s'accroître. C'est la première fois depuis plusieurs décennies que la République centrafricaine vit cette catastrophe naturelle. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, une radio locale engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri dans l'est du pays a annoncé qu'elle cessait d'émettre par peur de représailles, ayant déjà coûté la vie à l'un de ses journalistes. Il s'agit de la radio communautaire Luemba du territoire de Mambasa. Son directeur, Joël Moussavouli, affirme avoir décidé de couper le signal hier. Il affirme que lui et son équipe sont victimes de leur engagement dans la sensibilisation contre la propagation d'Ebola. Eddy Sango a joint Joël Moussavouli.
Tous les journalistes de la radio communautaire Luemba sont maintenant à des bandades actuellement à cause des menaces qui pèsent sur eux, parce que ces derniers sont en train de sensibiliser sur la maladie à virus Ebola. Et actuellement, tous les journalistes sont en cachette, les uns sont encore dans la brousse et les autres sont dans des familles d'accueil où ils supposent être sécurisés. Et suite maintenant à ces menaces qui pèsent aux journalistes, nous avons décidé de fermer, de couper avec les signaux de la radio jusqu'à ce que les autorités politiques puisse nous venir à l'aide parce que ces affaires-là opèrent dans le milieu sans aucune inquiétude. Les journalistes maintenant sont abandonnés à leurs professeurs. Vous vous souvenez avec nous que notre confrère Fatih Mahamba a été lâchement abattu la nuit du samedi 3 novembre dernier. C'est pour cette raison que nous autres qui restons, nous avons vraiment la peur au ventre, craignant que nous serions aussi égorgés comme notre confrère qui a été lâchement abattu.
Qu'est-ce qui est fait depuis l'assassinat ou le meurtre de votre confrère Papi Mahamba? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Où en est-on?
Ce jour-là, Papi Mahamba était revenu de la radio juste après son émission de sensibilisation que la maladie a virus Ebola arrivée chez lui. Il a été lâchement abattu.
Y a-t-il une raison pour laquelle ces groupes de gens qui ne sont pas connus jusque-là tuent ou menacent les journalistes qui sensibilisent sur Ebola?
C'est la radio qui reste maintenant l'unique outil qui va être utilisé pour la sensibilisation de la maladie de virus Ebola. Donc, notre problème, notre péché que nous avons commis, c'est d'avoir continué avec les activités de sensibilisation de la maladie à virus Ebola pour que la population, selon elle, dise que cette maladie n'existe pas. C'est une maladie de mondage, c'est une maladie satanique. Alors, la population ne comprend pas que la maladie existe.
Est-ce qu'on connaît les personnes qui ont tué votre confrère ou qui vous menacent, vous, les autres des médias?
Ces assaillants étaient accompagnés avec certains fils de tournoi qui le montraient maintenant où se retrouvait la maison de chaque agent qui travaille avec les équipes de la Riposte. Certains d'entre eux ont été arrêtés, mais quelques jours après, ils ont retrouvé leur liberté. On ne sait pas pour quelle cause.
Quel genre de menaces avez-vous reçu ces jours-ci?
Il y a eu une pharmacienne qui était enlevée la nuit du vendredi dans sa pharmacie, près de 19h, et puis relâchée vers 2h du matin, et ses assaillants leur avaient donné un tract qu'elle vient donner aux agents de la Riposte, ainsi qu'aux journalistes qu'on leur promette la mort. Il y a aussi des tracts qui sont ramassés par-ci, par-là, et nous serons toujours tués.
Joël Moussavouli, directeur de la radio communautaire Luemba du territoire de Mambasa en République démocratique du Congo.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et bien voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Anne Albertson, qui nous a également épaulé dans la tranche des nouvelles. À la technique, notre ami Daryl Smith. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique. À très bientôt.